Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes avec Bernard Michon, maître de conférences en histoire à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Et nous accueillons également aujourd'hui et pour deux émissions, Christelle Galdé. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bernard, je vous laisse présenter notre invité.
Christelle Galdé est directrice scientifique du musée d'histoire de Nantes, château des Ducs de Bretagne. Parmi ses publications, je signale à nos auditeurs un ouvrage avec de nombreuses illustrations sorti en mars 2017, intitulé « Nantes et la traite négrière atlantique », publié aux éditions du Château des Ducs de Bretagne. Je me permets également de mentionner un livre publié par Bertrand Guillet, qui est le directeur du musée du château, « La Marie Séraphique, navire négrier », aux éditions Mémo.
Merci Bernard. Alors avec vous Christelle Galdé, on va s'intéresser à la manière dont les thématiques de la traite des Noirs et de l'esclavage colonial sont abordées par le musée d'histoire de Nantes. Donc ma première question, pour commencer cette émission, pouvez-vous nous rappeler les origines du musée de Nantes ?
Alors le musée d'histoire de Nantes a ouvert en février 2007. Donc c'est un musée assez récent, mais c'est le dernier avatar, on va dire, d'une histoire plus ancienne, puisqu'à l'origine, 7 collections différentes ont été regroupées au château des Ducs de Bretagne, à partir du moment où il a été cédé à la ville de Nantes en 1915. Alors ces collections sont arrivées progressivement, les premières sont vraiment arrivées à partir de 1924, dans ce lieu que les militaires n'ont quitté finalement qu'en 1921. Et ces collections, elles étaient très diverses, très différentes les unes des autres. Donc elles ne se répondaient pas forcément les unes les autres, elles ne racontaient pas une seule et même histoire, puisque c'était, pour être précise, des collections liées aux arts décoratifs, aux costumes, aux arts, au folklore. C'était aussi des collections du musée de Nantes par l'image, des collections d'art sacré, des collections de commerce, de marine, avec le musée des Salanges qui va rejoindre le château en 1955. Donc des collections très différentes que les gens visitaient dans des lieux assez différents du château lui-même, sans relation. Le musée d'histoire de Nantes qui a ouvert en 2007 a en fait proposé, à partir de ces collections très différentes les unes des autres, de raconter l'histoire de la ville de Nantes et du territoire nantais. Et donc il a laissé dans les réserves une part importante de ce qu'il possède pour raconter cette histoire.
Et une partie de l'histoire de Nantes est donc la traite négrière. Alors quelle place va occuper ou occupe la traite des Noirs et de l'esclavage dans les collections du musée lors de son ouverture en 2007 ?
Alors je dirais qu'il y a deux choses. Il y a la place que cette histoire occupe dans les collections du musée, c'est votre question, et il y a la place que cette histoire occupe dans l'histoire de la ville et dans le parcours muséographique, c'est une deuxième réponse si je puis dire. Dans les collections du musée, la place de la traite et de l'histoire coloniale nantaise était quand même importante. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je l'ai dit, le musée des Salorges avait été intégré au château des Ducs de Bretagne à partir de 1955. Et à travers lui, l'histoire économique, sociale, maritime, portuaire de la ville de Nantes avait intégré le château des Ducs de Bretagne, puisque le musée des Salorges avait été fondé par des conserveurs nantais, Louis-Maurice Amieux, et qu'il avait réuni autour de lui un certain nombre d'édiles, de membres de la société nantaise qui appartenait à ce moment-là au monde du commerce, de la marine, du monde économique. Et ces gens avaient donné régulièrement au musée des Salorges des pièces qui leur étaient propres, donc des pièces qui racontaient l'histoire de leurs entreprises et de leurs aïeux. Donc parmi ces pièces-là, les pièces qui étaient liées à l'histoire de la traite et à l'histoire coloniale nantaise étaient forcément des pièces nombreuses et importantes. S'il n'y avait pas eu cette passation directe, on va dire, par ces personnes, nous n'aurions pas la collection que nous avons aujourd'hui. Et à l'époque, ces personnes n'ont pas eu de peine à donner ces objets, y compris de problèmes moraux, parce que, on va dire, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, valoriser l'histoire négrière nantaise, c'était pas une difficulté particulière, dans le sens où on considérait que le XVIIIe siècle, c'était le grand siècle de Nantes. Donc on voulait absolument montrer ces collections-là. et parler de la traite négrière n'était pas un problème en ce sens. Voilà, donc les collections étaient importantes. Dans le parcours, jusqu'à présent, jusqu'à 2007, il y avait eu, on en reparlera peut-être après, hein, des périodes différentes et fluctuantes. Mais pour nous, quand on a ouvert le musée en 2007, il était important que cette histoire soit inclue évidemment dans l'histoire nantaise et dans le temps long qu'est la sienne. Trop souvent, l'histoire de la traite atlantique est perçue dans un temps court, qui va être, on va dire, celui du 18e et jusqu'à l'abolition 1848. Pour nous, c'était important de montrer les débuts, les enjeux au XVIIe siècle, de montrer la complexité de ce commerce au XVIIIe siècle, sa permanence au XIXe siècle durant la traite illégale. Et donc, j'ai envie de dire que dans le parcours permanent, pour répondre au deuxième volet de votre question, cette histoire, elle est très développée puisqu'elle occupe chez nous de nombreuses salles, qui on dit, alors nous, de la salle 5 à la salle 19, mais en fait donc de nombreux siècles qui sont, et cette histoire est présentée donc dans un parcours assez long dans le musée.
Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon et Christelle Galdé.
Christelle Galdé, vous avez évoqué une part, je dirais, fluctuante de la traite négrière et de l'esclavage dans les présentations réalisées au sein du musée. Et je voudrais que vous puissiez nous en dire un peu plus, et en particulier sur les choix qui ont été opérés par le conservateur Stanis Gautier après la Seconde Guerre mondiale.
Alors, Joseph Stanis Gautier est un conservateur qui n'était pas du tout intéressé par ce type de sujet. Il avait des objectifs, donc il a été en poste très longtemps, de 1922 à 1969. Donc ça a été quelqu'un de déterminant dans la constitution de la collection du château, et puis des musées du château, et puis leur présentation. Mais c'était quelqu'un dont l'objectif principal au départ était de faire à Nantes le musée qui finalement va ouvrir à Rennes, c'est-à-dire un musée pour lui à l'époque, du folklore breton et vendéen, et aussi du folklore nantais, on va dire. Alors j'utilise le mot folklore parce que c'est un mot qu'il utilisait lui-même et qu'il voulait développer. Donc on est dans un contexte qui est vraiment très particulier, aussi celui des années 30, 40, 50, pendant lequel lui va être vraiment déterminant à ce moment-là. Et les questions liées à l'histoire elle-même, à l'histoire économique, maritime, commerciale, l'intéressent assez peu. Donc il ne va pas acquérir d'objets majeurs durant la période pendant laquelle il est actif sur l'histoire coloniale. À partir de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on peut quand même voir un certain nombre d'objets à ce moment-là dans le musée des Salorges, mais il ne va pas forcément les mettre en exergue plus que d'autres. À partir de la Seconde Guerre mondiale, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, la question est de reconstruire l'image de la ville de Nantes. Donc, la ville de Nantes a été pendant la guerre une ville bombardée, chacun le sait. Ça a été une ville résistante, je pense que les gens le savent aussi. Mais ça a aussi été, et ça c'est moins dit évidemment, une ville collaborationniste par de nombreux aspects. Et il va falloir, après la guerre, redorer un petit peu le blason de la ville, lui donner une image qui soit meilleure, plus positive. Or, le contexte international a changé, c'est celui de la décolonisation. Et dans ce contexte, la position de la ville, ça va être d'occulter certains éléments de son histoire, dont l'histoire négrière. Et pour avoir une image qui soit plus positive, celle que tout le monde a aujourd'hui, Nantes, ville résistante et martyre. Donc le fait de ne plus avoir cette histoire négrière dans les salles du musée, ça va être important. Alors quelques objets vont rester, notamment des entraves, mais on ne va plus rien en dire. Voilà, on va laisser les gens devant ces objets-là sans rien en comprendre. Et d'une certaine manière, l'histoire va s'étioler, même si les objets ne quittent pas les vitrines. On vient les voir sans en comprendre la nature réelle et un peu par fascination quand même aussi. On sait que Nantes était une négrière, mais où, quand, comment, pourquoi, à quelle hauteur, voilà. C'est plutôt là que va se situer le déni.
Et justement, le musée a été fermé donc pendant plusieurs années pour d'importants travaux. Il a été réouvert, vous l'avez dit, en 2007. Alors, les travaux sont réalisés notamment autour de la scénographie et autour des thématiques de la traite et de l'esclavage, puisque vous nous avez expliqué maintenant que cette thématique est présente dans de nombreuses salles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça s'est fait ?
Oui, alors quand nous avons repris en main en fait l'écriture scénographique et scientifique du musée, Marie-Hélène Jouzeau, Bertrand Guillet et moi-même, nous étions entourés d'un conseil scientifique, évidemment. Les questions importantes se sont posées, à savoir comment intégrer cette histoire dans le parcours. Donc là, on l'a bien vu, sur un temps long. Et puis comment la rendre visible et sensible. Parce que cette histoire, bien sûr, nous voulions l'affronter avec beaucoup de rigueur. Mais nous voulions aussi que les gens qui traversent ces espaces, et notamment un espace particulier, celui où on parle d'une campagne de traite négrière nantaise, type, on va dire, il y a un ressenti très important, c'est-à-dire qu'on ne la tienne pas complètement à distance. Donc nous avons choisi, avec le cabinet qui nous accompagnait, de Jean-François Baudin à Paris, de rompre la scénographie, dans une salle notamment, où les gens vont avoir l'impression de rentrer, alors c'est pas une reconstitution, c'est plutôt une allusion, mais dans l'entrepont d'un navire négrier nantais. Donc on a choisi une rupture scénographique forte, que les gens comprennent immédiatement, parce qu'on voulait qu'il y ait quelque chose de sensible et que cette histoire ne soit pas racontée comme une autre, que les gens comprennent que là, on racontait une histoire différente.
10 ans après la réouverture des salles de ce musée remanié, quel bilan faites-vous de ces choix scénographiques opérés ?
Ah, alors c'est vrai que c'est... Je peux dire qu'en fait, ces salles-là, nous les regardons avec plus d'attention que les autres. Et le public qui traverse ces salles a fait l'objet de nombreuses enquêtes. Qualitatives, cognitives, sensibles. Des enquêtes vraiment aussi pour mesurer ce que ces salles apportaient aux gens réellement. En termes de compréhension, d'appréhension, de réflexion personnelle, de réflexion citoyenne. Donc nous avons fait de nombreuses enquêtes et nous nous sommes rendus compte qu'en fait les gens percevaient très rapidement, par exemple, la violence de la traite. La question de la violence, c'est quelque chose de très important. Quand vous êtes dans un musée, il faut à la fois être rigoureux et faire en sorte que les gens se sentent intégrés à l'histoire qu'ils visitent, enfin, qu'ils la ressentent aussi. On ne peut pas oublier qu'on est là en tant qu'individu physique et que face à des documents, face à la cruauté, la douleur de cette histoire, qui est quand même une histoire très particulière, ils puissent à la fois l'intégrer intellectuellement, c'est-à-dire la comprendre, c'est-à-dire la mettre à distance et en même temps, la mettre à distance dans ce qu'elle a de particulier. Or, on est en train de parler d'humains, dans ce qu'on leur a fait subir de pire de ce qui peut exister aujourd'hui. Donc, quelle place laisser au ressenti, ça aussi, c'est très important. Et comment tout cela va faire que les gens vont ressortir de ces espaces en ayant à la fois compris et appris et se soient posé des questions sur l'humanité, sur leur propre humanité, sur le quotidien, sur le monde d'aujourd'hui, sur leur place dans le monde d'aujourd'hui, sur leur regard qu'ils ont et qu'ils jettent sur les autres, sur leur tolérance, sur leur amour de l'autre. Voilà, toutes ces questions-là, elles sont importantes dans un musée. Et aujourd'hui, je pense que ce sont des espaces que nous avons beaucoup réécrits, beaucoup changés, beaucoup transformés. Mais je crois que ce sont des espaces qui remplissent un certain nombre de missions que nous leur avions confiées, si on peut confier des missions à des espaces, si je puis dire, à savoir, les gens en sortent, alors parfois bouleversés, souvent très émus, toujours très intéressé par le sujet. Et pour nous, je crois qu'en cela, l'objectif est atteint.
Christelle Galdé, Bernard Michon, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Nous allons poursuivre nos échanges en évoquant les portraits des époux d'Heurbrouck, une des œuvres majeures des salles consacrées à Nantes au XVIIIe siècle. Merci aux auditeurs qui nous suivent. Excellente fin de journée. C'était Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la mémoire, avec à la technique José Pasquale.